Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle séance du Festival Raison d'Agir qui traite aujourd'hui de la démocratisation et plus spécifiquement de la démocratie dans les services publics. Alors, il y a un petit changement qui ne dépend pas de, qui échappe à notre volonté. C'est le Frédéric Pierru qui était prévu, donc cet après-midi n'a pu finalement nous rejoindre. Donc cette première séance, en tout cas, sera limitée à une seule intervention, mais enfin une intervention multiple puisque c'est une intervention à trois voix, intitulée La démocratie scolaire et universitaire. Alors, je vais présenter rapidement les trois intervenants et je leur donnerai tout de suite la parole ensuite. La conséquence de ce désistement de Frédéric Pierru sera aussi que nous aurons un peu plus de temps pour les entendre. Donc, on va leur donner trois quarts d'heure et ça donnera donc à la fois plus de temps pour les entendre, mais aussi plus de temps pour échanger avec eux. Alors, on accueille donc cet après-midi Étienne Douatte, qui est maître de conférence en sociologie, qui travaille sur la question scolaire de diverses façons, mais en ce notamment ces dernières années en travaillant sur la question de l'absentéisme, ce qui a donné un ouvrage publié récemment en 2011 aux éditions La Dispute et qui est intitulé L'école buissonnière. Ensuite, alors je ne sais plus dans quel ordre vous intervenez, je crois que c'est Bertrand en fait qui intervient en premier, donc Bertrand Jay, qui est sociologue, professeur de sciences de l'éducation, qui a travaillé sur aussi de diverses manières sur la question scolaire et sur la question universitaire, notamment en alliant une approche classique pour la sociologie de l'éducation, mais aussi en associant cette approche-là à une approche qui serait plutôt qu'on pourrait plutôt qualifier de sociologie politique. Je vais citer deux ouvrages de Bertrand Jay, un ouvrage qui a été publié en 1999 au Seuil et intitulé Profession instituteur, et un second ouvrage publié à la Découverte en 2005 intitulé Le syndicalisme enseignant. Enfin, Véronique Rollin, qui est maître de conférences en linguistique et qui travaille, comme vous le verrez tout à l'heure, sur le discours néolibéral, alors de diverses manières, mais aussi en lien avec l'université, comme on pourra le constater. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner la parole tout de suite et je la reprendrai tout à l'heure, en tout cas pas pour la voler, mais pour la redistribuer dans la salle après leur intervention. Merci.
Alors, le sujet que... Non, ça ne doit pas marcher, ça. Le sujet que nous avons prévu de traiter, c'est donc la démocratie scolaire et universitaire. Alors, moi, je vais me contenter de définir un peu le sujet, donc d'avancer ou de rappeler quelques généralités sur la question, à partir de quoi Étienne interviendra davantage sur le secondaire et Véronique sur l'enseignement supérieur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la démocratie scolaire et universitaire, dans le sens où nous avons essayé de le faire travailler ? Le plus souvent, quand on parle de démocratie au sujet des questions scolaires, c'est le débat dominant en sociologie de l'éducation depuis plusieurs décennies. Ce dont on parle, c'est d'abord et avant tout la question de la démocratisation, justement, c'est-à-dire celle de l'accès au savoir, celle de l'accès à l'école elle-même, celle de l'accès à l'enseignement secondaire, à l'enseignement supérieur, les inégalités d'accès au savoir, surtout l'explication de ces inégalités, la question des pratiques d'enseignement, comment elles s'inscrivent dans la production de ces inégalités, et la place qu'y ont spécifiquement les personnels, les familles, les élèves. En fait, c'est pas exactement de ça dont nous souhaitons parler. On verra qu'en réalité, ces questions-là sont très liées. Parler de une conception de l'école ouverte au plus grand nombre, c'est que ça a quelque chose à voir avec l'implication, la participation, l'intervention des personnels, des familles, etc., dans le fonctionnement de l'institution. Mais c'est davantage ce second aspect que nous souhaitons aborder, et donc en parlant de démocratie scolaire et universitaire, c'est bien du fonctionnement de l'institution scolaire que nous souhaitons parler en priorité. C'est une question qui n'est traitée que de façon marginale dans les travaux scientifiques. Moi j'ai abordé un peu latéralement par la question du syndicalisme. On l'aborde aussi évidemment dès qu'on traite la manière dont fonctionne l'institution, quand on travaille sur l'absentéisme ou sur des sujets comme ça, forcément, on est amené, ou sur les politiques néolibérales, sur leur application, forcément, on est conduit à réfléchir notamment à la perte de démocratie interne au système d'enseignement. Mais pour autant, cette question n'est pas identifiée en tant que telle dans les débats publics sur l'école. C'est d'abord la question des inégalités, je le disais, les valeurs de compétition, les rapports que l'école entretient avec le monde économique, qui sont les questions qui sont principalement débattues. Mais bien sûr, ces questions sont étroitement associées. Et quand on observe ce qui se passe dans une assemblée générale à l'université, par exemple, il est beaucoup question de la démocratie de l'université, notamment quand il s'agit de renforcer le poids du président d'université, le poids des instances locales, etc. Mais pour autant, ce n'est pas une question constituée comme telle dans le débat public et dans les travaux scientifiques. Et une des raisons peut-être qu'on pourrait en trouver, c'est le fait que nos têtes sont pour partie organisées par une sorte de prêt-à-penser, en tout cas de dichotomie, qui s'impose à nous, parce qu'elles sont construites comme telles dans le débat public. Quels sont les camps en présence, quand on parle de l'école principalement ? Eh bien, chez les intellectuels médiatiques, chez ceux qui ont voix au chapitre quand il s'agit de parler de l'école, que nous dit-on de ces questions ? On a d'un côté les intellectuels dits républicains, dont le meilleur exemple est Alain Finkielkraut, mais on pourrait en citer d'autres, qui s'exprime en réalité quand on l'écoute bien sur ces questions. Que dit-il exactement ? Lui met surtout l'accent sur les effets délétères de ce qu'il considère être des conceptions dominantes de la chose scolaire. Il décrit en effet l'école comme prise dans un mouvement de démocratisation, mais qu'il dénonce surtout comme une forme d'affaiblissement des savoirs. Il parle en fait de la démocratisation scolaire pas tant autour de la question des inégalités, qu'il tient pour relativement indifférente à ses propres problématiques, mais il en parle comme quand on critique la politique de démocratisation culturelle de Jack Lang, hein, c'est-à-dire le relativisme généralisé, la confusion des genres dans les savoirs qui seraient ceux qui relèvent de l'école et ceux qui sont donnés dans les sphères qui entourent l'école. Bref, la diversité culturelle serait une des origines de l'affaiblissement de l'institution scolaire. On ne reconnaît plus la nécessité de transmettre la culture de nos ancêtres à nos enfants et on ne se préoccupe plus de classer par ordre d'importance les savoirs en fonction de leurs valeurs sociales. Et il ajoute à cela une deuxième thématique assez puissante et qui nous intéresse par rapport à la question de la démocratie, c'est celle des droits des enfants. Il lie assez directement la question de l'affaiblissement de l'institution scolaire à l'affaiblissement de l'ensemble des institutions, et des institutions en particulier comme la famille. Il y a un affaiblissement là aussi des hiérarchies traditionnelles. Alors après, il fait des ouvrages sur l'amour qui viennent tempérer les choses et remettre un peu d'humanité dans tout cela, mais malgré tout, on sent la nostalgie d'un ordre passé qui serait autant l'ordre scolaire que l'ordre familial et probablement l'ordre politique. En tout cas, les droits de l'enfant sont pour lui quelque chose qui est de nature à déstabiliser le rapport enseignant-enseigné et qui donc affecte très directement la possibilité même pour les professeurs d'enseigner. Alors, est-ce qu'il ne fait aucune référence aux libertés démocratiques, à la possibilité même que les individus, les personnels, les groupes confrontés à la scolarisation puissent intervenir et avoir des droits à s'exprimer, à se saisir de leur activité de travail ou de leur activité scolaire? Non, il y fait référence. Les libertés démocratiques sont quelque chose d'important pour Alain Finkielkraut, mais posées comme un horizon lointain, Il s'agit de, à l'école, de préparer le citoyen, de lui transmettre l'équipage nécessaire pour qu'il puisse penser par lui-même. Et voilà, la démocratie n'a pas grand-chose à faire à l'école, sauf à être l'horizon de l'école. Et la démocratie a, en quelque sorte, envahi des espaces où elle n'avait rien à faire, la culture, la famille, l'école, etc., au nom d'une vision proprement démagogique qui serait issue à la fois de la sociologie critique et de l'ère du temps de post-68 ans. Proprement démagogique et qui a comme conséquence de ravaler le savoir au rang de marchandise, alors que le savoir est un des biens les plus précieux de la civilisation. Que dit-il des syndicats ? Les syndicats ayant quelque chose à voir, sans doute, avec les libertés démocratiques dans l'institution scolaire. Eh bien, il nous dit que les syndicats ne se prononcent pas sur les droits syndicaux, en quelque sorte. Mais il nous dit que les syndicats ont accompagné ce mouvement, que par volonté d'élargir leur audience, leur clientèle, en quelque sorte, ils auraient accepté de bon gré l'élargissement du public scolaire parce que c'était la condition pour accroître le corps enseignant et du coup accroître leur pouvoir social. Et donc, il s'agit d'en revenir à la République étant pour lui d'essence antilibérale dans tous les sens du terme. Antilibérale au sens du libéralisme éducatif, mais antilibérale aussi au sens du libéralisme marchand qui est posé chez Finkielkraut comme un adversaire de l'école. Voilà un pôle. L'autre pôle, en face, chez des réformateurs scolaires, alors on pourrait en citer un certain nombre. On pense souvent à Mérieux dans ces cas-là. Je pense qu'il n'est pas le meilleur représentant de ce qui nous intéresse ici. Le meilleur représentant des positions libérales, ou social-libérales, si l'on veut, c'est sans doute François Dubé, qui, lui, va nous parler des rigidités de l'institution scolaire, des blocages de l'institution scolaire qui feraient obstacle à des nouveaux critères qui s'imposeraient d'eux-mêmes en quelque sorte de l'histoire de l'institution scolaire, nouveaux critères de justice et d'efficacité éducative. Au fond, la question n'est plus tellement de transmettre les savoirs au nom d'une institution reconnue de tous, puisque l'institution s'est affaiblie, c'est un fait et on n'y reviendra pas. Il n'y a même plus vraiment raison de réfléchir à l'institution, puisque dans cette conception toujours assez étonnante des sociologues touréniens, les institutions n'existent plus, elles ne sont plus que des fictions. Voilà. Mais par contre, au nom de cette institution passée, on opposerait des rituels, des manières de fonctionner, des façons de faire conservatrices qui s'opposeraient au fait qu'on puisse discuter de gré à gré, en quelque sorte. L'égalité, on ne l'atteindra pas, c'est également un vœu pieux, mais au moins faire en sorte que chacun soit traité avec le sentiment de la justice, avec le sentiment de l'équité. Et au fond, le discours implicite et parfois non implicite de François Dubé, c'est que les corporatismes de tous ordres figurent parmi les principaux obstacles à cette évolution de l'institution scolaire. Donc chez Dubé, les libertés démocratiques, elles apparaissent aussi, puisqu'il voit la nécessité pour les acteurs de l'école, les parents, les élèves, etc., chez lui, doivent jouer un rôle bien plus que l'institution, la profession, la hiérarchie, l'État, etc. Tout ça, ce ne sont plus que des fictions. Il y a donc place pour une expression démocratique nouvelle, mais qui ne figurerait pas dans l'ordre du fonctionnement de l'institution, d'un renouveau du fonctionnement de l'institution, mais plutôt d'un ajustement à la demande externe adressée à l'école. Celle inexprimée des vaincus du système, victimes des inégalités, donc il reprend cela très directement la sociologie inaugurée par Bourdieu et Passeron, mais qu'il prend en quelque sorte du côté des victimes, hein, et en se plaçant de leur côté contre les profs, en quelque sorte, pour essayer d'ajuster au plus près l'école à cette nouvelle donne. Donc il s'agirait, dans cet esprit, d'approfondir le mouvement de décentralisation de l'école, de développer le pilotage par projet, le pilotage local. Et pour lui, les syndicats, cantonnés à la défense des moyens, divisés, incapables de produire un quelconque changement, question dont on peut discuter par ailleurs, hein, et dont nous sommes un certain nombre à ne pas nous priver de discuter de la position des syndicats par rapport au projet d'école. Malgré tout, lui, la question est en quelque sorte réglée d'avance, puisque les syndicats seraient en quelque sorte par nature cantonnés à ce point de vue ultra défensif et ultra corporatiste, incapables de produire un quelconque changement et complètement hors jeu par rapport à la nouvelle question scolaire. Voilà. Et on est comme ça depuis 20 ans, quasiment, prisonnier de ce débat qui opposerait des soi-disant républicains à des pédagogues. On dit souvent, c'est présenté souvent comme ça dans le débat public, à France Culture, par exemple. On pourrait dire aussi des démocrates. Ça correspondrait assez bien. Alors, je disais hier, vite fait, hein, un peu comme une provocation, que la République et la démocratie n'avaient peut-être rien à voir. Ce n'était pas mon opinion. Mais c'est l'opinion qui nous est proposée, hein, dans le débat public. On tend à nous dire, bien, d'un côté, il y a la République au sens de quelque chose qui nous dépasse, qui est transcendant, qui est l'institution, qui est l'État, qui est du côté du dur, en quelque sorte, et du mort. Et quelque chose qui serait fluide, qui serait la communication, la participation, la place laissée à chacun, l'épanouissement, etc., etc. Et ce qui correspond assez bien à cette opposition entre République et démocratie que nous vendent par ailleurs un certain nombre d'autres intellectuels. Mais ce qui est remarquable, c'est que ni cette définition-là de la République, ni cette définition-là de la démocratie n'intègre la question de l'organisation collective des personnels, n'intègre la question des syndicats, n'intègre même vraiment la question de l'organisation collective des usagers, comme on dit, hein, des familles, des élèves, etc. Ce n'est pas tellement le sujet. On est davantage dans le gré à gré, et c'est bien pour ça que fondamentalement et rigoureusement, hein, sans étiquette infamante, ce sont des courants qui s'inscrivent très directement dans ce qu'on peut appeler le social-libéralisme. La République devrait donc se sauver contre le monde de l'opinion, le monde du marché. Voilà, mais quelle est donc cette vision républicaine? Quid de la République sociale? Est-ce que c'est vraiment ça la République? Quelque chose qui s'impose à nous, comme un ordre figé? Et de l'autre, la démocratie devrait s'appuyer sur des individus, sur des formes de régulation fluide, dégagée d'une institution déjà morte. Voilà, mais la démocratie est réduite à une forme d'ouverture, en quelque sorte, de participation. Mais là aussi, on peut trouver qu'il y a là une vision assez réductrice de la démocratie, parce que la démocratie dans l'institution scolaire, c'est peut-être d'abord penser la démocratie sociale, en quelque sorte, qui devrait organiser l'institution scolaire. J'ai dit, je ne serai pas long, je suis déjà un peu. Donc je vais passer. Une chose est sûre, si on regarde ce qu'a été le syndicalisme, ce qu'il reste encore très largement pour partie, le syndicalisme dominant dans l'éducation nationale a pris la face d'un syndicalisme de corps, organisé sur les statuts, sur les catégories professionnelles qui défendent chacune leur conception du monde scolaire, très lié à l'institution scolaire. Oui, c'est vrai, encore que c'est un peu changé. Et puis surtout, ça n'enlève rien à l'actualité de ces débats sur la manière d'organiser l'institution scolaire et la place que peuvent y prendre, y compris les personnels. Voire au contraire, on pourrait s'interroger dans le contexte actuel où on ne parle que d'autonomie, autonomie des universités, autonomie des établissements scolaires. Vous savez que dans les nouvelles dispositions qui ont été adoptées cette année, s'agissant de certains établissements, des dispositifs éclairs notamment, on prévoit de renforcer encore un peu plus les prérogatives des chefs d'établissement pour faire en sorte qu'ils puissent recruter directement des personnels précaires. Bref, on ne jure plus que par ce renforcement de l'autonomie, mais conçu comme l'autonomie des établissements, avec un renforcement à la clé de la ligne hiérarchique qui fait que les responsables d'établissement sont promus au rang de véritables managers. À cela, me semble-t-il, on peut opposer une autre conception de l'autonomie. Et ces débats sur l'autonomie ont été particulièrement vifs au moment de la loi LRU dans les universités. L'autonomie, les personnels de l'éducation nationale ne sont pas contre. Et pas forcément parce qu'ils sont pour que leur syndicat noyote toute la politique scolaire au ministère de l'Éducation nationale, comme on l'a longtemps dit de la Fédération de l'Éducation nationale. Il y a longtemps que ce n'est plus le cas, hein, cela étant dit. Ce n'est pas ça le véritable enjeu du point de vue des enseignants. Le véritable enjeu, c'est de définir une autonomie qui soit une autonomie collective, une véritable autonomie professionnelle qui fasse en sorte que les gestes du métier, les meilleures manières de faire, le contrôle sur le professionnalisme soient orchestrés de l'intérieur de manière autonome par rapport au marché, par rapport à l'Église historiquement. Bref, de l'autonomie des enseignants et éventuellement de la place que peuvent prendre dans le fonctionnement les familles et les élèves, mais de l'autonomie des enseignants, en fait, on peut parler comme on parle de l'autonomie des créateurs, l'autonomie des savants, l'autonomie de la justice. Hein, c'est ça véritablement l'enjeu, que le monde éducatif puisse s'organiser en fonction de règles, de valeurs, de modes de fonctionnement qui aient à voir avec les valeurs qui sont au centre de la transmission des connaissances. Et cette autonomie professionnelle-là, elle n'a pas voix de cité dans ce débat. Elle n'existe pas. Ce dont on parle, c'est simplement la possibilité du projet d'équipe, éventuellement, sur commande, sur catalogue, à des visées de faire valoir pour le chef d'établissement, dans le jeu de compétition entre établissements qui s'est de plus en plus instauré depuis une vingtaine d'années, mais en aucun cas revisiter la question de pourquoi, par exemple, on a créé le statut de fonctionnaire. Pas simplement pour faire un statut protégé, etc. Non, parce qu'il y a un siècle et demi, les enseignants étaient directement sous la coupe des hommes politiques. Les mutations étaient organisées par ce qu'on appelait les lettres de recommandation, les recommandations politiques. Et donc la meilleure manière d'assurer quelque chose de l'ordre d'une magistrature morale, c'était de donner à ces personnels un minimum d'indépendance. Donc on peut en rediscuter. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres clauses? Condorcet lui-même, sous la Révolution, avait parlé de société savante indépendante qui ne devrait ni constituer des corporations, ni en aucun cas être sous la coupe directe de l'État. Voilà, Condorcet nous proposait une réflexion qui prenait en compte l'ensemble de ces... Eh bien, ces débats-là n'existent plus aujourd'hui, et c'est de cela qu'on devrait discuter. Donc, il faut que je finisse. On va donc en parler autour de questions qui sont, elles aussi, moins souvent traitées quand on parle de ces questions de démocratie, notamment tout ce qui tourne autour des aspects pédagogiques. Dans l'univers de la recherche et sur la réforme des universités, on a surtout parlé de la mise au pas, de la création d'arbitraires, etc., sur le pacte pour la recherche, sur le fonctionnement scientifique à proprement parler, et puis autour des présidences d'université. Mais on parle peu de ce qui concerne la formation elle-même, l'enseignement. Même chose pour le secondaire, on parle peu de ce qui se joue autour des savoirs eux-mêmes, de leur conception, de leur organisation, et c'est pour cela qu'on a privilégié ces questions aussi bien pour le secondaire que pour le supérieur. Désolé. Non,
au contraire. Je pourrais en prendre autant. Étienne.
Alors, ben je vais faire un double lien avec à la fois ce que vient d'évoquer Bertrand sur l'autonomie professionnelle et puis ce qui a été évoqué hier par André Orléans sur les questions d'économie. Donc je vais faire un focus sur ce qui s'est joué ces dernières années en SES, sciences économiques et sociales. Donc voilà, une discipline qu'on retrouve dans une filière qui existe depuis bientôt 45 ans et qui a fait l'objet d'une attaque régulière depuis des décennies, mais de manière particulièrement aiguë ces dernières années. Je vais y revenir. Et donc j'ai pris cet exemple-là parce qu'il me semble effectivement que dans cet espace de socialisation que constituent les SES forment un champ de bataille où s'actualise la question de la démocratie aussi bien sous l'angle de ce qu'on peut y apprendre, de ce qu'on pouvait y apprendre avant justement la dernière réforme des programmes que je vais évoquer. Donc la question démocratique, s'actualise sur cet angle-là, et puis aussi elle s'actualise, ou plutôt se joue de manière dramatique en matière de, comment dirais-je, si l'on considère le recul de l'autonomie précisément professionnelle qu'évoquait Bertrand, puisque les enseignants de SES, de sciences économiques et sociales, ont véritablement été dépossédés de leur métier, du métier qu'ils avaient, pour lesquels ils ont choisi de se former. Voilà. Donc ils ont, on leur a demandé de faire un autre métier à travers l'influence qu'on a voulu donner au curricula ces dernières années. Je vais y revenir. Donc ce que je voudrais, je vais contrôler un peu mon temps parce que je sens que je vais partir dans tous les sens. Ce que je voudrais dire finalement, déjà pour commencer, c'est que c'est une discipline qui, les SES, qui fait l'objet d'offensives régulières depuis sa création, c'est-à-dire depuis 66-67. Donc le CNPF, dans les années 70, déjà critiquait vertement cette approche de l'économie, qui était vue comme une économie trop politique, donc avec le fantasme ou le risque qui planait autour de la politisation des jeunes lycéens qui empruntaient cette filière, donc d'une mauvaise économie qui serait, donc là évidemment ça fait écho au débat qu'on a eu hier avec Orléans, les profs de SES pouvaient transmettre d'autres formes de modèles que celui néoclassique notamment, et surtout, je vais y revenir longuement, pouvait articuler, devait, c'est le principe avant-gardiste des SES, articuler la question politique et la question sociologique et la question économique. Donc le patronat de l'époque, il y a bientôt 40 ans, a déjà repéré cette discipline comme une discipline qui entretient une forme de méconnaissance de ce que c'est que le monde de l'entreprise. Et de la bonne économie, c'est-à-dire l'économie néoclassique en particulier. Donc on a une partie de l'UDF en particulier, voilà, qui s'attelle à cette question. Raymond Barre, qui a écrit un manuel qui est resté longtemps célèbre dans les années 59-60, est en guerre aussi contre la discipline, notamment au moment de la création de la grecque de SES en 77. La droite n'a pas le monopole de cette offensive régulière à l'endroit des SES. Le ministre de l'Éducation, Claude Allègre, par exemple, voit aussi dans les SES une forme de déclin et de manière de politiser d'une mauvaise manière, semble-t-il, les jeunes. Donc on a régulièrement, de la création jusqu'aux années récentes, jusqu'aux années 2000, des offensives de la part des différents ministres ou représentants des équipes dirigeantes. Le principal argument invoqué, c'est finalement donner une mauvaise image de l'entreprise aux jeunes. C'est ça qui inquiète le plus. Donc c'est ce soupçon de nourrir un désamour pour le monde de l'entreprise, pour la question de l'entreprise. Et de ne pas suffisamment former les jeunes aux questions de gestion. Je cite. Alors les années 2000, les années 2000 vont voir le mouvement s'accentuer, évidemment, comme d'autres d'ailleurs, en matière de perte d'autonomie professionnelle, les choses vont s'accentuer. Et on pourrait aussi parler d'histoire géo. Là, je fais le focus sur les SES, mais il y a d'autres disciplines qui pourraient aussi faire l'objet d'exposés. Mais donc en SES, la SES devient vraiment une cible importante du MEDEF. Donc le nouveau CNPF, le MEDEF continue l'offensive et en fait vraiment une cible. Alors je vais citer deux, trois mots qui disent un petit peu l'esprit de ce qui est reproché au SES. Dans l'expansion en 98, au lycée, l'économie mène à tout sauf à l'économie. 2002, toujours dans l'expansion, anti-libéraux jusqu'à les caricatures, les livres d'éco offrent aux lycéens une vision biaisée de cette matière. Sous-titre, l'étrange myopie d'Emmanuel. Bon. Et puis, très récemment, notre président, pour une semaine encore, alors, il faut savoir que Nicolas Sarkozy a fait un bac B, donc l'ancien bac ES. Il y a une filière économique pour vos enfants. C'est une blague. Donc, c'était pas un très bon élève, paraît-il, en SES. Mais donc il a aussi une dent particulière contre la discipline. Ce qui va se passer, pour vous donner un peu le ton de ces années 2000 autour des SES, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une véritable mainmise, une véritable offensive sur les programmes, sur le curriculum, avec l'idée de refondre les programmes, ce qui n'avait jamais pu se faire. La résistance a toujours été forte, elle l'est toujours plus que jamais, mais cette fois-ci, la bataille est provisoirement, en tout cas, perdue, et le PS, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas annoncé de moratoire sur cette refonte des programmes. Donc c'est là-dessus que je vais maintenant dire quelques mots, puisque je voudrais vous faire passer l'idée un petit peu qui a réussi à s'imposer à travers la refonte de ces programmes. D'abord, comment ça s'est fait de manière complètement antidémocratique, c'est-à-dire qu'il y a eu je la fais très courte, il y a pas mal d'articles sur la question, mais on a eu toute une série de... On a d'abord une grosse association en France qui s'appelle l'APSES, l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, qui avait avec 1500 adhérents sur 5000 profs, donc c'est une grosse association, qui a des arguments qui sont travaillés contre les propositions de réforme de la fin des années 2000, qui n'ont absolument pas été prises en compte, et un groupe d'experts formé de différentes personnalités éminentes, mais souvent proches, disons, de l'idéologie libérale et du monde patronal. Donc ces experts ont finalement réussi à faire passer pour la seconde, puis pour la première, puis pour la terminale, programme de terminale qui rentrera en vigueur cette année en 2012, on réussit donc à faire passer un nouveau programme. L'APSES s'est retirée, elle était quand même invitée à cette consultation pour examiner ces programmes. Elle s'est retirée puisque ses avis étaient systématiquement évacués ou presque. Donc on a eu une évacuation de tous les arguments des défenseurs, des intellectuels universitaires, des représentants de l'APSES, du Conseil supérieur de l'éducation, qui avait aussi désapprouvé les premières propositions de programme. Donc on a eu véritablement une refonte complètement anti-démocratique des programmes de SES. La particularité, c'est là que ça rejoint vraiment la question de... une certaine partie des questions évoquées hier par Orléans. Il s'agit dans ces nouveaux programmes, finalement, de saucissonner ce qui faisait de saucissonner les savoirs qui étaient proposés en SES. Il s'agit de refaire une partition où sociologie, économie, sciences politiques, et c'était l'atout principal des SES, étaient appréhendés de manière transversale. Il s'agit là de les, en grande partie, pas complètement, c'est pas aussi simple, mais en grande partie, il s'agit de réinstaurer une logique d'apprentissage de concepts statiques, de rentrer par des notions, alors que l'originalité des SES était précisément de problématiser le prof de SES, problématiser une question de société, les retraites par exemple, qui est aussi bien une question sociale que politique qu'économique, et de la mettre en travail avec une didactique qui a été parfois critiquée, mais une pédagogie didactique, et de la mettre en travail, cette question par exemple des retraites ou de l'organisation du travail par exemple, avec les élèves. Donc, et en puisant de manière transdisciplinaire. Donc hier on parlait d'unidisciplinarité, ça serait à discuter, mais dans le siège de l'école des annales, disons, de manière transdisciplinaire, de mettre en travail des questions de société qui évidemment pouvaient évoluer au fil des décennies. Donc là on renoue avec une logique assez statique. Alors je vais essayer de mettre en évidence un peu ce qui gêne par hypothèse, peut-être le plus, pourquoi finalement on s'est attaqué avec autant de véhémence au SES. Finalement, les SES étaient la possibilité, suivre cet enseignement-là, de déconstruire, pour reprendre le terme qu'utilisait Orléans hier et qu'on utilise souvent en sciences sociales, déconstruire le sens commun, de construire les évidences, notamment les évidences d'une certaine doxa libérale, de proposer une variété de modèles économiques, voilà, plusieurs scénarios possibles, par exemple sur la question des retraites. Il n'y a pas une seule solution, un seul modèle pour répondre à cette question que l'on a construite des retraites, et pas seulement une réponse néoclassique à cette question. Donc, apprendre à identifier des points de clivage, des tensions qui sont indissociablement sociologiques, politiques et économiques, découvrir que justement les réalités financières qu'on a pu évoquer hier sont indissociables de questions de pouvoir, de rapport de force, et qu'elles ne se réduisent jamais à des questions purement comptables ou techniques, hein, comme on peut l'imaginer quand on considère la question par exemple, du déficit ou des retraites, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est ça, à mon avis, c'est une des hypothèses qui gêne et qui a été détruite à travers la réforme des programmes de SES, c'est cette possibilité pour les enseignants, finalement, de former des jeunes à affûter leur sens critique, par rapport au discours dominant, au discours institutionnel, au discours médiatique, hein, qui peuvent parfois aussi laisser entendre qu'il n'y a qu'une seule solution possible. On l'a évoqué aussi hier par rapport à des grandes questions. Aujourd'hui, la dette, par exemple, il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Donc, encore faut-il, pour s'en persuader, avoir les outils, hein, pour déconstruire l'évidence parfois relayée par les grands médias. Les SES étaient une contribution à cette formation, hein, et c'était pas une contribution mineure, puisqu'on avait, c'était comme le disait Orléans hier, une filière qui a pour l'instant toujours un grand succès, environ 100 000 élèves par promo par an, voilà, sur 300 000-320 000 donc voilà un bon succès de cette discipline, et une formation à la citoyenneté, à la participation à la vie démocratique, qui en grande partie a été démolie, disons, avec cette refonte des programmes. Je vais m'arrêter là et puis on continuera dans la discussion.
Merci. Okay. Donc, l'université. Alors, je vous prie de m'excuser par avance, je vais faire ce que je déteste quand je suis à votre place, c'est-à-dire que je vais être obligée de couper parce que j'en ai trop. Mais c'est bien, je suis passée d'un quart d'heure à 7 minutes, donc je vais couper et je vais de 7 minutes à un quart d'heure. Donc, comme l'a rappelé Bertrand tout à l'heure, effectivement, associer néolibéralisme, université et démocratie offre de multiples entrées. On en a choisi une. Je voudrais quand même très rapidement en mentionner une autre dont on pourrait parler dans le débat, celle de la hausse des droits d'inscription qui refait surface. Et qui serait une cause de dédémocratisation de l'enseignement supérieur. Alors, qui refait surface avec l'actualité des PARC, les prêts à remboursement contingent, nouveauté de la conférence des présidents d'université qui, soucieux d'équité sociale, propose d'augmenter les droits d'inscription pour tous. Voilà. Et grosso modo, on pourra en parler après. Qui instaure des prêts pour les étudiants, des prêts consentis par l'État. Et donc, l'étudiant qui n'aurait pas pu payer ses études, eh ben, le jour où il trouve un emploi, il devra payer des impôts augmentés du remboursement à l'État de ce que l'État lui a prêté pour faire ses études. Voilà, donc on aurait pu parler de ça, on a choisi de parler d'autre chose. On a choisi de parler de la question de l'exercice du métier, de l'autonomie professionnelle, donc en l'occurrence pour moi des enseignants-chercheurs, dans le contexte que l'on connaît de libéralisation des universités et de marchandisation du savoir.
Alors, comment va la démocratie universitaire? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et ce ne sera pas un scoop pour la plupart d'entre vous. Elle va très mal. La chose n'a rien d'étonnant. On peut la résumer en une formule. La démocratie est soluble dans le néolibéralisme. De nombreux travaux, alors j'y reviendrai pas, on pourra y revenir dans la discussion. De nombreux travaux en sciences sociales, mais aussi de nombreuses publications militantes, ont depuis de nombreuses années montré le caractère foncièrement adémocratique, antidémocratique, contre-démocratique ou dédémocratisant du néolibéralisme. Donc vous pourrez retrouver tout ça dans de nombreux essais ou travaux de recherche. Je prends juste une citation de Wendy Brown dans ce petit livre qui est là-haut sur la table de la belle aventure, « Démocratie dans quel état ?». Wendy Brown écrit « La rationalité néolibérale façonne chaque être humain, chaque institution, y compris l'État constitutionnel, sur le modèle de l'entreprise et remplace les principes démocratiques par ceux de la conduite des affaires dans toute la vie politique et sociale. » Donc l'université ne fait bien sûr pas exception à la règle. Et je ne vais pas revenir, ça là je vais couper toute cette partie, sur le processus que vous connaissez sans doute, dont vous avez sans doute entendu parler, même si vous n'êtes pas universitaire, le processus dit de Bologne et la stratégie de Lisbonne qui est la loi symbole de ce processus, la LRU, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Contre laquelle le monde universitaire et d'abord les étudiants se sont massivement mobilisés, commençant d'ailleurs par dénoncer la fausse négociation qui avait été menée en amont et qui rappelle ce qui a été dit hier sur la négociation dans l'entreprise, c'est-à-dire que quand les partenaires sont arrivés autour de la table, il n'y avait bien sûr plus rien à négocier. Alors, bien évidemment, dès le début du mouvement anti-LRU, on a beaucoup insisté sur le caractère profondément antidémocratique des nouvelles formes de gouvernance que cette loi allait instaurer. Alors, je ne vais pas revenir, Michel Quebel en a parlé hier, le mode de scrutin digne d'une république bananière. On a pu le voir dans les élections récentes à la présidence des universités. Avec 48% des voix, on obtient un siège sur 7 au conseil d'administration, par exemple. Sous-représentation des étudiants, sous-représentation des personnels administratifs, entrée massive de personnalités extérieures. On connaît ça très bien dans tous les services publics. Alors, on n'est plus maintenant dans l'assertion anticipée du désastre à venir. Depuis l'échec du mouvement de 2009, les contre-réformes s'appliquent à une vitesse absolument délirante à l'université, comme dans les autres services publics et à l'image de ce qui s'est passé dans le secteur privé dans les années 90. Et corollairement, l'antidémocratisme s'affirme progressivement comme un exercice conscient et revendiqué du pouvoir universitaire et des modes d'organisation qui en découlent. Alors, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez trouver sur le site de Sauvons la Recherche un article d'Olivier Desélus qui s'intitule « La politique, l'excellence contre la démocratie », puisque notre horizon professionnel est maintenant borné par la quête de l'excellence. Donc il montre très très bien dans cet article les différentes étapes de ce processus de dédémocratisation. Alors, il part du modèle SYMPA, alors cet acronyme très sympa, effectivement, mais qui a fait passer les financements de l'université d'une logique de besoin à une logique concurrentielle pour arriver à la dernière étape, celle dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire l'étape des IDEX, la création d'IDEX, donc les initiatives d'excellence, dont Olivier Desélus signale que, je cite, « la création d'universités, que les IDEX permettent la création d'universités de fait par délégation des établissements constituant de toutes les prérogatives requises, mais pas une université de droit, puisqu'elle n'est pas soumise au code de l'éducation et de la recherche. » Voilà. Donc là, on est arrivé à la fin du processus de dédémocratisation. Alors, tout au long de ce processus, les conduites antidémocratiques deviennent constitutives de l'exercice du pouvoir, je le disais. Par exemple, les IDEX, dans certains cas, mais aussi toutes sortes d'autres projets, parce qu'on a eu les LABEX, on a eu les chaires d'excellence, etc., etc. Les équipex ont vu le jour alors que les CA concernés, les conseils d'administration concernés, avaient voté contre ou même parfois n'avaient pas été consultés du tout. Bref, dans l'exercice de notre quotidien, de notre métier, on assiste à des dénis quotidiens, eux aussi, de démocratie, d'autocratisme avéré, dont on peut prendre la mesure à la lumière d'exemples concrets, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers un exemple qui est assez peu connu, y compris des universitaires. Alors, travailler sur ce sujet a un avantage extraordinaire, c'est qu'on n'est jamais en manque de corpus. Donc, un exemple parmi d'autres, avant d'en venir à celui que je veux traiter un petit peu plus dans le détail, relevé le 4 avril, je n'ai pas eu le temps de consulter mes mails dans le détail depuis, mais je suis sûre qu'il y en a eu d'autres depuis. Il s'agit des demandes de délégation de pouvoir que le président de Paris 13 a soumis à son CA. Alors, délégation de pouvoir, je vais aller vite, hein, délégation de pouvoir pour pouvoir, je cite, décider librement et sans délibération préalable et spéciale du CA en matière budgétaire, d'ester en justice, d'approbation des contrats et des conventions et des accords cadres et des marchés publics. Voilà, donc ça a été proposé au CA du 6 avril de l'Université Paris 13. Ça n'a pas été adopté, le CA ne l'a pas adopté, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas passer par-dessus le CA ultérieurement. Mais je voudrais quand même signaler que la justification du président de Paris 13 dans les débats du CA est assez révélatrice, c'est-à-dire qu'il a justifié ses demandes de délégation en expliquant qu'il s'agissait de sujet purement technique et absolument pas politique. Voilà. Donc ça dit aussi là, des choses hein, sur la dédémocratisation. Alors, une chose aussi, avant d'en venir à l'exemple des IDFI que je voulais traiter un petit peu plus dans le détail, c'est cette dédémocratisation de nos pratiques professionnelles, elle passe par des très grandes choses, comme la création de ces IDEX, hein, des espèces d'usines à gaz absolument monstrueuses que les hospitaliers connaissent très bien aussi dans le secteur de la santé, etc. Mais elle passe aussi par beaucoup plus petites choses. Par exemple, quand, au nom de la transparence, une présidente d'université s'adresse à la communauté universitaire de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, pour justifier sa politique de gel de 10 postes enseignants et biats, parce qu'on ne peut plus dire biatos, parce qu'ils ont enlevé le O de ouvrier, dans une langue que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'au nom de la transparence, elle vous écrit, elle vous dit, bah voilà, je viens vous expliquer pourquoi on gèle 10 postes, et vous ne comprenez rien. Technicisation, mathématisation du langage, langue d'expert en comptabilité. Et on comprend mieux pourquoi, dans mon université, donc à Nanterre, sont organisés des stages en management et en gestion de l'entreprise à destination des personnels. Alors, comme je n'ai pas suivi ce stage, il a fallu que je fournisse un effort un petit peu plus soutenu pour comprendre, par exemple, un terme que les universitaires ont rencontré il n'y a pas très longtemps, GVT. Alors, c'est quoi GVT ? Alors, on commence déjà par élucider l'acronyme, hein, dont la langue managériale est férue, bien sûr. Alors, GVT, c'est le glissement, vieillissement, technicité. Bon. Alors, après, vous allez un petit peu plus loin, vous googlez et puis vous tombez sur une définition. Donc, le GVT, c'est quoi ? C'est une des notions de variation de la masse salariale à effectif constant. Vous commencez déjà à voir un petit peu plus que ce que ça veut dire, mais enfin, ça reste quand même pas très clair. Puis après, vous allez dans les réunions avec vos collègues et puis on commence à parler de ce problème de GVT au moment où les universités donc passent aux responsabilités et compétences élargies, hein, c'est-à-dire sont totalement autonomes en matière budgétaire, c'est-à-dire qu'on a décentralisé la pénurie. Hein. Et donc là, dans les discussions, on parle de quoi ? Ben, on commence à se demander entre collègues s'il est bien opportun d'accorder autant d'émérites aux collègues qui partent en retraite. Et puis on commence à parler du coût des pensions de reversion à verser aux veufs et aux veuves de ses collègues émérites. Bon, moi, je pense que Ambroise Croizat, dont on a parlé pendant la prestation des étudiants, doit se retourner dans sa tombe. Donc, beaucoup d'exemples. J'ai choisi d'en parler donc d'un exemple, les IDFI. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple ? D'abord parce que leur élaboration et conception est tout à fait typique de nos nouvelles formes antidémocratiques d'organisation du travail, mais aussi parce que c'est moins connu, y compris des universitaires, comme je le disais, et parce que c'est la première fois que cette politique des appels à projets s'applique directement à la formation, à l'enseignement, à l'élaboration des contenus. Alors, IDFI, vous allez me dire, il n'y a pas d'ex là-dedans, hein, il manque un X, hein, pas pour faire référence au petit chien d'Obélix, hein, mais pour pouvoir l'intégrer à cette logique d'excellence. Mais alors, ne vous inquiétez pas, l'excellence est bien là, mais elle se cache dans le E de IDEFI, puisque IDEFI veut dire initiative d'excellence en formation innovante. Alors, on a déjà de quoi avoir des craintes, hein. Olivier Deselus, dont je parlais tout à l'heure, dit « La politique d'excellence constitue un principe de renoncement à l'universalité des savoirs et à l'introduction d'un principe de sélection drastique des disciplines et établissement digne d'intérêt. » Alors, je le disais, les IDEFI fournissent un exemple typique des procédures antidémocratiques auxquelles nous sommes confrontés absolument tous les jours dans notre métier. À commencer par l'initiative elle-même que l'on doit à la conférence des présidents d'université, instance sans aucune légitimité démocratique, mais qui a été hissée au rang de représentant et même de représentant exclusif de la communauté universitaire. Je la cherche toujours, la communauté universitaire, donc c'est pour ça que je mets les guillemets. Donc hissée au rang de représentant par Valérie Pécresse. Donc déjà, l'initiative provient d'une instance qui n'est pas une instance démocratique, qui n'est pas une instance représentative de la communauté universitaire. Ensuite, deuxième aspect typique de nos pratiques professionnelles, l'urgence dans laquelle on va monter ces projets. L'appel à projets est mis en ligne fin octobre et tous les projets devaient être montés le 19 décembre. Ce qui a de quoi déjà sérieusement hypothéquer les processus de décision collégiale et démocratique qui, on le sait, on l'a dit depuis deux jours, prennent du temps. Donc très vite, nombreux ont été ceux qui ont souligné que dans ces délais, on allait nécessairement favoriser des projets qui étaient déjà dans les cartons, ça a été le cas, et certainement pas susciter une réflexion d'envergure sur de nécessaires innovations pédagogiques. Urgence donc, mais qui ne pourrait pas fonctionner seule, qui est bien sûr associé au dogme TINA, mentionné hier par André Orléans, le fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher, qui dessine, comme André Orléans le disait, donc un seul chemin vers le futur et qui prend la forme d'énoncés que l'on entend quotidiennement, du type « on ne peut pas ne pas présenter de projet, il est impossible de ne pas répondre à cet appel à projet, la chose n'est même pas discutable, les enjeux sont, nous dit-on, beaucoup trop importants ». Urgence, inévitabilité et, bien sûr, des procédures d'élaboration inspirées du management, donc à travers l'imposition du nouveau management public à l'université. Donc, une gouvernance forte et resserrée dans les textes, bien sûr. Alors, il faut comprendre le président et sa garde rapprochée. Hein. Garde rapprochée, d'ailleurs, constituée souvent d'experts, pas toujours universitaires. On fait appel, bien sûr, à des cabinets de consulting qu'on paye très, très, très cher. Constitution de groupes de pilotage sans aucune légitimité démocratique, bien sûr. Bref, toute une série de pratiques d'organisation du travail qui introduisent une nouvelle ligne de partage entre intérêts individuels et intérêts collectifs qui est profondément contre-démocratique et dont les effets délétères ont été partagés. Très bien documenté, en particulier en sociologie et en psychologie du travail. Pour résumer avec Olivier Deselus, une gouvernance renforcée qui prendra des initiatives engageant pourtant des restructurations majeures de leurs institutions sans la moindre délibération sérieuse des instances représentatives telles les conseils centraux. Alors, dans le réel, ça donne quoi, ça? Parce qu'il n'y a pas de raison de laisser le privilège du storytelling aux néolibéraux. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la création d'un IDEFI. Alors, ça donne quoi? Ça donne un président d'une grande université parisienne, pas la plus réactionnaire. Loin de là, c'est une de celles dont on pouvait avoir, en laquelle on pouvait avoir des espoirs. Donc, ce président d'une grande université parisienne est en pleine négociation de son IDEX et il appelle sur son portable un jeune enseignant-chercheur très produisant, publiant à un niveau reconnu nationalement et internationalement et qui travaille actuellement ardemment à l'élaboration d'un nouveau master auquel il tient. Son portable sonne donc à ce jeune collègue. C'est son président d'université qui, en termes choisis, lui explique que s'il veut son master, il faudrait qu'il participe à l'IDEFI. Le collègue, il n'avait pas envie du tout de participer à l'IDEFI, mais l'argument utilisé était évidemment trop fort pour refuser. Quand il arrive à la première réunion pour discuter de cet IDEFI, il a réfléchi un petit peu à partir des maigres éléments dont il disposait. Alors, les éléments dont il disposait, lui et tous les autres collègues, c'était le titre du projet. À nouveau, un acronyme ou un mot-valise. On vous enverra un exemple tout à l'heure. Il voit quelques écueils possibles, il souhaite en discuter avec les collègues associés au projet et qu'il va rencontrer pour la première fois. Il pose une première question et là on lui répond. Je vous rappelle donc que c'est la première réunion et la seule d'ailleurs qui a eu lieu autour de la constitution du projet. On lui répond, on n'a plus le temps de discuter. Bien. Alors avec un peu de recul, les collègues qui ont vécu cette expérience, parce qu'ils ont été nombreux, ont pu comprendre que cette non-élaboration collective avait une autre motivation que l'urgence. Le niveau de concurrence est tel que tout doit se faire dans une confidentialité totale. La suspicion est de mise, le secret règne, les projets détaillés ne sont communiqués à personne et surtout pas aux collègues impliqués dans le projet. Si jamais quelqu'un allait nous piquer l'idée et décrocher le jackpot, ce serait quand même dommage. Donc personne n'est au courant, y compris les collègues impliqués. Alors, on le voit une fois de plus, hein, ce n'est pas nouveau, mais au moment où transparence, visibilité envahissent nos écrits et nos discussions professionnelles, les processus décisionnels et l'organisation du travail n'ont jamais été aussi opaques et autoritaristes. Alors, la deuxième raison qui a motivé le choix de parler des IDEFI, c'est que, je le disais, ils s'attaquent au domaine de la formation, à l'enseignement, au contenu pédagogique, hein, qui n'avait pas été jusqu'alors soumis à la logique de projet. Alors, il est impossible de généraliser la situation des enseignants-chercheurs, les situations sont trop diverses, mais malgré tout, majoritairement, il reste encore à cet enseignant-chercheur un espace où on peut s'extraire, même partiellement, de cette logique concurrentielle, un espace où il nous est encore possible de construire un espace de véritable autonomie pour soi-même et pour ses étudiants, et c'est cet espace-là que les IDEFI investissent. Alors, il ne s'agit pas de dire ici que toutes les contre-réformes engagées depuis le LMD, hein, grosso modo, n'ont pas eu d'impact sur le contenu des formations. C'est évident que la pré-professionnalisation, la masterisation ont eu des incidences majeures. Mais juste de dire que l'on peut encore, dans la grande majorité des cas, une fois la porte de la salle de cours fermée, professer sans doute pas toujours ce que l'on souhaite, mais en tout cas à peu près comme on le souhaite. Et c'est précisément cette autonomie pédagogique qui est directement menacée par la logique qui préside à la création des IDEFI.
Il me reste une ou deux minutes.
Il me reste deux minutes. D'accord. OK. Alors, très rapidement. Non, mais j'y suis presque. Hein. J'y suis presque. Alors, là aussi, je vous renvoie à un article sur les IDEFI que vous trouverez sur le site, cette fois-ci, de Sauvons l'Université, article de Pascal Maillard. Qui souligne que on voit quatre objectifs se dessiner dans les IDEFI. Alors, je vous les donne rapidement. Un, l'employabilité des étudiants au service des entreprises. Deux, l'introduction massive de supports numériques à des fins de réduction de la masse salariale des universités. Trois, l'introduction de la formation professionnelle permanente à l'université. Et quatre, la mise en place de dispositifs d'évaluation des enseignements et d'une politique incitative de gestion des ressources humaines. Alors, je voudrais revenir simplement sur deux points, mais ça va très vite. Hein. Je vous assure, j'en ai plus pour deux minutes. Je voudrais juste revenir sur deux points, à savoir, alors deux points qui sont frappants quand on va sur le site du gouvernement et qu'on va voir, puisque tout est visible et transparent, on a accès aux fameux 35 projets qui ont été labellisés IDEFI. Et on voit très bien, quand on les passe les uns après les autres, apparaître deux choses, à savoir l'utilitarisation des sciences humaines et le recours massif à l'ingénierie pédagogique. Alors, chaque projet est présenté en une page et six cases sur le modèle des référentiels métiers chers au management, qui est capable de réduire métiers et savoir-faire en quelques items. Donc, il faut rentrer dans les cases. Alors, quand on regarde rapidement, ne serait-ce que les titres et les contenus formularisés, on s'aperçoit qu'on a une intégration parfaite, non seulement du novlangue néolibéral, hein, c'est un florilège, si vous avez envie de vous amuser, allez-y, mais aussi de ces schèmes générateurs. Donc, je le disais, deux choses particulièrement frappantes. Les humanités qui sont systématiquement adossées au monde de l'entreprise. L'université de Nanterre avait proposé un projet qui n'a pas été labellisé, j'en suis désolée, qui s'intitulait Humanité et Management. Voilà. Et donc leur association de ces humanités à des formes d'ingénierie pédagogique. Alors, Sur le premier point, je vais passer rapidement, on pourra y revenir, sur l'adossement des humanités au monde de l'entreprise. C'est quelque chose qui déjà existe dans les universités. À Nanterre, par exemple, dans le département de philosophie, les collègues philosophes enseignent le relooking à leurs étudiants. Je voudrais juste, en un paragraphe, m'intéresser au deuxième point, c'est-à-dire l'ingénierie pédagogique. Et il me semble que de ce côté-là, c'est un paragraphe. Il me semble que de ce côté-là, un petit détour chez nos collègues états-uniens, qui sont plus avancés que nous dans la libéralisation universitaire, peut nous permettre de ne pas monter, pourrait peut-être nous permettre de ne pas monter dans un train qui a déjà déraillé. Alors, par exemple, David Sirota explique comment, aux États-Unis, sous couvert de réformes académiques et scolaires, une poignée d'entreprises en haute technologie a remporté le jackpot en produisant à la chaîne des tests standardisés, des didacticiels, qui génèrent pour leurs fabricants des profits extraordinaires, mais appauvrissent considérablement la pédagogie et sapent l'autonomie et la créativité des enseignants. Ces tests et autres progiciels, s'ils n'ont pas, loin s'en faut, prouvé leur efficacité en matière d'amélioration des niveaux scolaires, ont en revanche totalement corseté l'exercice du métier d'enseignant à tous les niveaux. Si l'on en doutait encore, un article de Catherine Liu, professeure à l'Université de Californie, Irvine, peut nous convaincre que l'éthos managérial qu'on est en train de nous imposer nuit gravement à l'éthos démocratique. Je la cite, « Pour l'éthos managérial, l'art du métier est l'ennemi à abattre. Un travailleur qualifié est un rebelle, un contestataire potentiel, un fauteur de troubles. » Des projets tels que l'IDEFI sont là pour les ramener dans le rang. Alors, pour conclure, et pour revenir à une question qui a été posée hier, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas poursuivre sur ce chemin? Alors, période électorale oblige, de multiples propositions sont apparues ces dernières semaines, émanant de chercheurs ou de candidats à la présidentielle, et à l'aune des quelques exemples que je viens de développer et de tous ceux qui n'ont pas été mentionnés, je dirais avec Louis Pinto, qui a écrit un article dans ce livre 2012, Les sociologues s'invitent au débat, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait commencer par changer de langage et congédier toutes les officines de consultants. Alors, bien sûr, ça ne suffira pas, mais ça nous soulagera et ça pourra peut-être nous permettre de commencer à penser, à repenser. L'excellence à taille humaine, ça n'existe pas, il faut le savoir. La gouvernance allégée et repensée reste la gouvernance. Donc il faudrait sortir de ça. Et ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, il va falloir, si on veut reconstruire la délibération démocratique et la participation active de tous les acteurs à l'université, il vous faudrait avoir le courage de renoncer, avoir le courage d'abroger, avoir le courage de démanteler. Et je terminerai en paraphrasant un appel très récent du Front syndical de classe en disant « Pas de démocratie retrouvée à l'université sans renoncement plein et entier à la logique marchande, sans abrogation de la LRU, des RCE, sans démantèlement de tous les ex. » L'exemple des mouvements récents au Chili doit nous convaincre que ce n'est pas la pure corporatisme de notre part, mais une véritable question de société, un enjeu démocratique de tout premier plan.
Merci à nos trois intervenants. Je vais juste faire une remarque au passage liée à la dernière intervention, parce que je lisais hier les résultats de l'enquête PISA. Vous devez connaître cette enquête qui consiste en une comparaison internationale des performances scolaires en comparant un certain nombre de pays. Et on peut être surpris de la façon dont un certain nombre d'acteurs en France s'inspirent du système scolaire américain, alors même qu'on s'aperçoit à travers ces enquêtes-là que les performances scolaires des élèves américains sont inférieures à celles de l'école française, alors que l'école française n'est elle-même pas dans une place très particulièrement valorisée, enfin en tout cas valorisante pour nous, mais en tout cas qui est dans une position plus, enfin supérieure en tout cas aux performances moyennes des élèves américains, enfin états-uniens. Bon, je vais donc donner la parole à la salle. en vous demandant donc si vous avez des remarques, des réactions ou simplement des questions.
Merci. Moi, j'aurais plusieurs remarques. D'abord sur la question du secondaire, et peut-être pour élargir à d'autres disciplines. Je pensais à ce qui se passait, par exemple, en français, où, pareil, le but du français, c'est d'analyser des textes, donc d'affiner le sens critique des élèves. Et on voit de plus en plus une volonté d'augmenter ce qu'ils appellent l'histoire de l'art, la biographie des auteurs et tout, et beaucoup moins d'analyse critique de texte qui est fait en cours, en tout cas jusqu'à la terminale. Je pense aussi à tous ces diplômes qu'on demande aux enseignants de valider, notamment en matière informatique, le B2I, le C2I, en langue aussi, qui se résument à des items où on ne sait pas du tout ce que veut dire chaque item, et donc je sais que les enseignants le valident les yeux fermés, en tout cas ceux qui essayent de ne pas jouer le jeu, parce que sinon c'est impossible, d'après ce que j'ai compris. Moi, je voulais vous interpeller sur un autre point, c'est sur... là, dans la campagne, on entend plusieurs candidats qui essayent de valoriser ce qu'ils appellent l'apprentissage, donc dès 14 ans, c'est une autre manière de réduire la démocratisation de scolaire, en tout cas d'écarter une certaine classe sociale de l'école, et donc et très tôt en plus. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça?
On va peut-être prendre plusieurs questions.
Merci. J'avais une question aussi concernant le lycée. Concernant les programmes, le choix des programmes, est-ce qu'on voit dans l'évolution des 30 dernières années également des modifications sur les personnes qui sont amenées à faire les choix des programmes? Alors, les programmes, bien sûr, sont contraignants, mais pas tout à fait, puisqu'il y a, je crois, notamment en français, une relative liberté de choix de certains textes par rapport à d'autres. Mais est-ce que là, on voit, comme on le voit par exemple dans la gouvernance des universités, on voit apparaître des représentants extérieurs à l'université prendre des décisions. Est-ce que là aussi, on voit d'autres profils de personnes qui font partie des commissions assez mystérieuses pour le commun des mortels ?
Moi, je voulais demander par rapport à l'enseignement en sciences économiques et sociales, en quoi ça devait affûter le sens critique ? Parce que alors, le prof que j'ai eu, franchement, il n'avait pas compris ça. Hein, vraiment, moi, j'ai fui ça justement pour cette raison, et j'ai fait histoire après. Voilà. Sinon, je voulais reposer ma question que j'ai posée hier, qui a été balayé d'un revers de la main par l'intervenant. Donc, moi, j'en ai marre d'entendre parler de droite et gauche, sachant que ça dépend du mouvement que prend la direction générale, alors qu'à l'origine, c'était par rapport au positionnement dans l'Assemblée nationale. Tout le monde parle de droite et de gauche, et c'est vraiment quelque chose de très relatif et qui n'a aucun sens à mon goût. En tout cas, c'est purement un terme de désinformation, justement. Je ne pense pas, non.
Si vous voulez répondre, pas nécessairement à cette question-là.
Je vais dire deux mots sur l'apprentissage, et peut-être sur droite et gauche. Puis je vais en profiter pour dire un mot sur les histoires de discipline et de programme. Oui, sur l'apprentissage, c'est un vieux combat, je ne sais pas comment dire, c'est un vieux combat d'un certain nombre de courants, de faire en sorte, la vie politique et sociale française, de faire en sorte que les enfants, les jeunes soient libérés de l'emprise du travail pour pouvoir accéder au savoir.
Cela étant dit, on a une difficulté. On a la difficulté que la démocratisation scolaire s'est heurtée à nombre de difficultés et que bon nombre d'élèves au niveau du collège sont en échec et alors demande même, la demande des familles, il y a souvent le choix vers le professionnel et éventuellement vers l'apprentissage qui est fait. Ça nous renvoie à plusieurs choses, ce débat. Je pense que ça nous renvoie à la nécessité de reprendre la question de la scolarisation de masse, du collège unique et des conditions dans lesquelles on peut, à mon sens, revoir les programmes, repenser peut-être aussi les conditions d'enseignement, les modes d'enseignement, pour faire en sorte que tout ce qui s'enseigne jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire soit enseignable à tous. Je pense que ce n'est pas exactement le cas aujourd'hui. Les libéraux ont une solution. C'est l'école à la carte. C'est le socle commun des connaissances et des compétences, qui n'est pas totalement mis en œuvre dans sa plénitude actuellement, mais qui dessine un horizon scolaire où, pour certains, il y aurait un noyau de savoir utilitaire, communiquer, compter, parler en anglais, etc. Et pour les autres, l'accès à des formes plus abstraites de connaissances en sciences et en mathématiques ou dans les humanités. À cette réponse-là, il faut en opposer une autre, c'est quelque chose qui permette de revisiter les connaissances, les manières d'enseigner. Et sans doute, moi, c'est comme ça que j'interprète cette revendication, qui était une revendication ancienne de mouvements d'éducation et de mouvements syndicaux, et qui est reprise actuellement dans la campagne, de porter la scolarité obligatoire à 18 ans. Moi, j'ai été longtemps hostile, parce que j'ai considéré que tant qu'on n'avait pas réglé le problème de l'enseignement obligatoire du collège unique, c'était proprement illusoire, c'était une illusion de prof. Mais je considère qu'on peut le concevoir d'une autre manière, c'est-à-dire comme un appel à la discussion, à la mobilisation des professionnels pour repenser l'école et reconstruire l'école à partir de ceux qui n'ont que l'école pour réussir, comme disent nos collègues de Paris 8, là, sciences de l'éducation. Et faire en sorte qu'on se donne les conditions de réussite pour tous. Bon, je m'excuse, je suis un peu long, mais je pense qu'on ne peut pas parler de ça sans évoquer la nécessaire réforme scolaire, mais qui prendra des années et qui suppose la mobilisation de tous les acteurs. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, la réponse de principe, me semble-t-il, c'est que dans tous les cas, il faut souhaiter qu'on puisse repousser l'orientation vers des filières et éventuellement la fin des études au minimum à 16 ans, voire à 18 ans. Mais de toute façon, au minimum, il y a la préférence qu'on peut avoir pour l'enseignement professionnel plutôt que l'apprentissage, puisque l'on sait que de toute façon, il y a l'illusion que l'apprentissage, ça donne la possibilité d'un truc beaucoup plus pratique, hein, beaucoup plus efficace. En fait, il y a une proportion très importante d'élèves qui sont en échec en apprentissage, parce que même l'apprentissage, ça suppose des savoirs élémentaires. Et tant que les élèves ne les ont pas acquis, même en apprentissage, ils ne réussissent pas. Et ils se trouvent après très directement en échec, y compris pour valoriser leur diplôme acquis par l'apprentissage sur le marché du travail. Ça ne veut pas dire que l'apprentissage ne puisse pas réussir pour certains, mais en tous les cas, ça n'exonère pas de réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut former. Même des ouvriers, aujourd'hui, ils ont besoin d'un minimum de savoir, et ce n'est pas forcément dans les conditions de l'apprentissage qu'on peut leur offrir. Donc on peut, évidemment, l'apprentissage n'est pas à bannir en soi, mais à 14 ans, certainement pas, avant la fin de la scolarité obligatoire, certainement pas, et au minimum, il faudrait revaloriser les enseignements professionnels. Il faudrait peut-être d'ailleurs, dans cette manière de repenser le curriculum, intégrer peut-être davantage de savoirs techniques et professionnels dès le collège, mais offert à tous, plutôt que d'en faire une espèce de voie de relégation qui arrive uniquement pour les élèves en échec. Bon, je dis ça assez mal et vite, mais bon, du coup, je ne vais pas répondre. Je voulais juste dire un mot quand même sur les disciplines. Ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe quand on écoute Véronique et Étienne, c'est le fait que la question de la discipline ou de la pluridisciplinarité, de la monodisciplinarité ou pluridisciplinarité, joue à fond renversé dans le secondaire et dans le supérieur. Dans le supérieur, on ne cesse de nous vendre les croisements, les licences pluridisciplinaires, etc. Moi, je suis assez favorable à la pluridisciplinarité par ailleurs. On se fait très mal voir par les collègues quand on dit ça, parce que cette pluridisciplinarité, on cherche à nous la vendre d'une manière insupportable, quoi. C'est-à-dire, voilà, un peu de soupe avec une espèce de choix des étudiants sur des trucs Voilà, bon, je ne développe pas, mais la pluridisciplinarité qu'on nous propose est pluridisciplinarité orientée vers des visées instrumentales et un peu démagogiques. Bon. Par contre, il y aurait quelque chose à faire dans le sens de ce qu'il disait Orléans hier, justement, à repenser sans doute la proximité. Je ne serais pas contre qu'il y ait une discipline universitaire qui soit construite sur le modèle de discipline des SES, par exemple. Bon, bref. Mais ce qui est très frappant, c'est que dans le secondaire, on fait exactement l'inverse. C'est que dans le secondaire, on casse ce bloc qui était fait de plusieurs disciplines. Ce qui nous signale que c'est un peu des chiffons rouges qu'on agite devant nous, hein, cette question des disciplines. Et en fait, il y a une visée proprement idéologique qui consiste à casser les blocs de résistance que constituent les disciplines dans l'enseignement supérieur et que constituent certaines disciplines dans l'enseignement secondaire.
Donc, oui, juste un mot sur le collège. Le collège et l'alternance à 14 ans, donc ça, c'est 15 février, je crois, que ça a été, que c'est passé au journal officiel. Donc effectivement, c'est la fin quand même. Peu de gens l'ont vu, hein, ça a été relativement peu noté, mais c'est la fin du collège unique qui n'avait pas été complètement réalisé, mais enfin qui était quasiment réalisé depuis 95-96, depuis la fin de l'orientation en fin de 5e, et qui est donc terminé avec ce décret. Moi, j'ai évidemment les mêmes positions que Bertrand. C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment de lutter contre l'une des plus grandes violences du système. C'est pas seulement de réussir, mais c'est de réussir dans des temps impartis. C'est-à-dire que ce qui est violent aussi dans ce système scolaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui et de plus en plus concurrentiel par ailleurs, c'est qu'il faut effectivement intégrer. Alors, on parle surtout de compétences aujourd'hui. Bertrand en a dit un mot, donc j'y reviens pas, mais ça revient, oui, ça répond en partie à une question aussi sur les compétences. Mais intégrer donc ces connaissances dans des temps impartis très courts. Donc, effectivement, demander ou convoquer, disons, un gamin à 14 ans pour lui, finalement, lui demander de se positionner sur quelque chose qui va déterminer son parcours pour les 40 prochaines années, c'est extrêmement violent. Donc, effectivement, sursoir. Donc, sursoir à 18 ans minimum, la fin de l'obligation scolaire pourrait être une balise, puisqu'on est à 16 ans depuis 59. On pourrait très bien imaginer, on serait plus en phase finalement avec la réalité du temps moyen de scolarisation si on était à 18 ans. Se souvenir, ne pas oublier qu'effectivement, le luxe des classes moyennes et supérieures, c'est justement c'est la scolée, c'est-à-dire c'est le loisir studieux qui dure jusqu'à 20-25 ans, voire plus, pour se poser des questions, pour l'expérimentation mentale, pour se demander ce qu'on fera plus tard, etc. Et puis la violence qui est faite aux autres, c'est de se positionner très vite sur le marché du travail, de valider des compétences qui seront utiles eu égard aux impératifs du système productif, quoi. Donc évidemment, non, le collège à 14, enfin, l'alternance, les stages en alternance des 14 ans, donc le retour à l'orientation en fin de 5e qui vient d'être décidé, c'est un prodigieux retour en arrière et l'acte, le énième acte d'une politique de renoncement, hein, qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs décennies, en fait, hein, en tout cas depuis les années 2000 largement. Et je voulais juste dire un mot sur peut-être aussi sur les. Je pense que vous êtes peut-être. Je vais évidemment pas vous demander votre âge, mais on a une époque aussi en bac B avec une surreprésentation massive de profs issus de l'économie, donc qui n'avaient pas fait de sociaux. Donc, donc le seul intérêt des SES, c'est effectivement de ne pas faire ce qu'a déploré Orléans hier, c'est-à-dire de l'économie néoclassique, ou en tout cas une économie orthodoxe, pur sucre, point barre. Le côté potentiellement émancipateur, pour employer des gros mots, et en tout cas porteur heuristique, pour employer d'autres gros mots, des SES, c'est justement l'interdisciplinarité, ou... le croisement des disciplines, la confrontation des sources, la confrontation des modèles théoriques, des paradigmes, et ça dans le sillage de l'école des annales, en tout cas c'est un des emprunts qui a été fait à l'école des annales, de mettre en perspective historique, de réhistoriciser les choses. Par exemple, la famille, qui a été d'ailleurs virée du programme de seconde il y a 2 ans, hein, montrer qu'il y a plusieurs formes de famille possibles, hein, et pas seulement une crise de la famille, mais que dans d'autres civilisations, il y a d'autres formes familiales, que dans notre propre pays, il y a différents modèles familiaux. Ça, c'était littéralement ce qu'on pouvait enseigner en croisant le politique, l'économique, hein, parce que l'institution familiale est aussi, peut s'appréhender d'un point de vue économique et sociologique. Et ça, effectivement, c'était le côté que j'ai appelé rapidement, potentiellement, comment dirais-je, voilà, critique, hein, un apprentissage critique et qui a disparu. Voilà.
Bon. Juste pour compléter, moi j'enseigne essentiellement dans les premières années de l'université, donc en STAPS. J'ai un public qui est bigarré, hein, mais il y a essentiellement S et ES. Et à coup sûr, je sais qui sont les ES et qui sont les ES. Il n'y a pas photo. Quand je les vois, bien sûr, pas en amphi, évidemment, hein, mais dans les discussions, en travaux dirigés, je vois tout de suite ceux qui ont suivi. Les personnes critiques beaucoup plus développées que les autres. C'est pas une généralité non plus, mais ça se voit. Hein.
Mais c'est vrai que dans les années 90, moi-même, j'avais un prof d'éco. Hein. D'ailleurs, on ne disait pas SES, on disait éco. Voilà, bac B ou les premiers bac ES, et c'était 80% d'enseignants qui avaient fait éco.
Comme je suis un petit peu plus vieille et que j'ai fait B aussi, moi, mon prof de cours nous a fait lire le livre 1 du Capital de Marx. Et on allait à la fin des cours, on allait faire avec lui à la MJC du quartier, faire un petit journal sur le type des journaux, des détournements des situationnistes, etc. Donc là, on était vraiment dans le développement des spécotiques. Et sur la question de gauche et droite, en tout cas pour l'université, oui, ça nous change à une exception près. Il y a une présidente d'université qui continue à avoir des positions que l'on pourrait qualifier de gauche. À une exception près, ça ne change rien. Qu'ils s'affichent de gauche ou de droite, ils sont en train de faire tous exactement la même chose. Donc je ne crois pas d'ailleurs qu'on ait vraiment employé le terme dans nos interventions. Sauf toi, quand tu as parlé du gouvernement de gauche, mais bon, ouais, effectivement, c'est descriptif. Mais sinon, on peut revenir à la réponse qu'avait donnée Bertrand, effectivement, hier. Il y a quand même un horizon de gauche qui, effectivement, ne s'applique plus à des partis qui se disent de gauche, mais qu'on peut...
Mais à l'intérieur, quand on parle de Finkielkraut ou de Dubé, etc., difficile de dire si c'est à droite ou à gauche. Ouais. Hein,
ouais. Non, Dubé se réclame de gauche. C'est la gauche il y a 60 ans, ce qu'on a dit
à plusieurs reprises.
C'est ridicule de dire gauche-droite et de dire extrême-gauche.
Non, mais on devrait dire, pour Claude Allègre, PS en 98 et appelant à voter Sarkozy en 2012.
Voilà,
ce serait plus juste, plus précis.
Comme on parlait de la nouvelle langue, je trouve que ça va avec, justement, de poser la question droite-gauche. Ça n'a plus aucun sens de parler dans ces termes. Et je suis choqué chaque fois qu'on me dit ça, mais je suis choqué par la quantité de personnes qui parlent en ces termes. Et je leur explique à chaque fois que ça n'a plus aucune signification. Et je me bats contre ça.
C'est pas vraiment que ça n'a pas de signification, c'est qu'il faudrait préciser quelle signification on lui donne au moment où on l'utilise. Puisque vous le disiez vous-même que, puisque vous pouvez comparer la gauche d'aujourd'hui à la gauche d'il y a 30 ans, c'est que ça signifie quand même quelque chose. Il faut juste dire de laquelle on parle. Enfin bref. Alors peut-être 2 ou 3 dernières questions, rapidement, et puis après on clôturera la séance.
Bonjour, il y en a l'un de vous deux, ou enfin de vous trois, qui a travaillé sur l'absentéisme. Donc moi, ma question, c'était, donc là, actuellement, l'apprentissage, il peut être à partir de 14 ans, certes. Le fait de trouver un patron, déjà, et va poser énormément de questions, parce que les professionnels ne veulent pas... compte tenu de leur activité qui doit demander des résultats, ils ne veulent pas des apprentis qui ne sont pas concernés. Ça, c'est un premier point. Donc l'apprentissage entre 16 et 18 ans, l'apprentissage avant était à 16 ans, donc il y avait exactement le même problème. Moi, ma question était, les résultats scolaires qui entraînent les enfants qui partent en apprentissage sont extrêmement réduits. Ils ont un socle qui a de méconnaissance un socle d'apprentissage des principes fondamentaux qui sont extrêmement précaires. Ça c'est pour les 16 ans, et donc les 14 ans on n'en parle pas. Donc c'est pour plus ou moins cette raison qu'il y a une déscolarisation ou alors un passage vers l'apprentissage. En aparté, quand on part en apprentissage, effectivement, moi je suis formatrice en insertion, notamment pour les adultes aussi, on se rend compte qu'il y a énormément de précarité dans les lectures, dans la lecture, et surtout dans la prise de conscience des consignes. Donc forcément, dans l'apprentissage, quand on est dans le secteur professionnel, on a besoin de comprendre les consignes qui nous sont données. Ma question était... compte tenu de cet apprentissage qui est plus jeune, s'il y a des scolarisés, si les enfants ne sont pas pris en apprentissage et qui se déscolarisent, ce qu'on voit entre les 16 et 18 ans, où suite à un absentéisme important, même les CPE n'arrivent pas à récupérer les enfants, à savoir ce qu'ils deviennent dans la famille. Auprès des familles, parce que les familles ne répondent pas, ou il y a une précarité très 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 sûre. Qu'est-ce qu'il est prévu à l'heure actuelle pour récupérer ces enfants-là? Que vont-ils devenir de 14 ans à 18 ans s'ils ne sont pas pris en apprentissage? Excusez-moi. Et une autre question pour l'université. C'était pour savoir pour quelles raisons dans les critères administratifs il y a autant de disparités dans par rapport aux critères administratifs qui sont demandés pour une même discipline. Est-ce que l'autonomie des universités, est-ce que c'est la faute d'autonomie de l'université qui prévoit une telle disparité de différence de critères administratifs?
Moi, j'avais une question sur qui en fait revient sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'âge limite de la formation à l'école. Et moi, c'est plutôt le début de la formation à l'école qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire que l'école est obligatoire à partir de 6 ans normalement, que donc les écoles maternelles sont illégales depuis leur création, vu qu'elles prennent à partir de 3 ans et que facultative, c'est ça. Et que en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où il y a le plus grand nombre d'élèves. Donc là où la massification de l'éducation est la plus large, c'est l'école maternelle, et que vous n'en avez pas parlé dans aucun des trois discours. Pourtant, c'est là où il y a le plus, normalement, d'élèves, et donc de démocratisation ou de tentative de démocratisation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une étude qui vient d'être publiée qui montre les inégalités, justement, dans la formation. Et les inégalités sont les plus criantes dans les écoles maternelles, justement. Donc si vous avez... une remarque à faire, ça m'intéresserait aussi.
Moi, j'aurais voulu savoir aussi quelle était votre position, parce que là, vous avez parlé de la scolarisation, j'ai bien compris le sujet, mais du coup, quelque chose qui me semble en lien direct, c'est sur l'éducation populaire, et en particulier sur votre réflexion sur la refonte de la pensée d'un enseignement qui me semble être très vivace dans les milieux d'éducation populaire, et de la manière dont on peut repenser des structures et des réseaux d'apprentissage, et du coup une implication à la fois et des enseignants et des enseignés dans cette démarche de démocratisation de l'enseignement.
Vous voyez bien que même vous, et vous avez raison, c'est normal, c'est l'angoisse des profs, c'est le problème de la société aujourd'hui, la démocratisation en échec de l'école publique crée une espèce d'impasse pour les forces progressistes qui ne parviennent plus à s'emparer de ce problème, et du coup le problème revient sans cesse. Mais ce n'est pas le problème qu'on souhaitait traiter, c'était le problème de la démocratie. Et moi je pense qu'il y a un lien entre les deux, mais parce qu'on néglige le fait que pour transformer l'école et pour l'adapter aux enjeux d'aujourd'hui, hein, à ces élèves qui ne savent pas, mais on peut remonter, ne savent pas écrire ou comprendre un texte dans sa profondeur, parce qu'ils savent déchiffrer le plus souvent quand même, mais ils ne savent pas bien lire dès la sixième pour une bonne partie d'entre eux. Et si on regarde au niveau du cours moyen, on voit déjà qu'il y a un certain nombre de lacunes qui sont installées, ce qui interroge très profondément les modes d'apprentissage, les programmes, moi je pense, et les modes d'apprentissage. Jean-Pierre Deraille dit qu'il faut la méthode syllabique. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat là-dessus. Il faut que la collectivité fixe les missions de l'école, quel savoir, grosso modo, il faut enseigner. Ça, ce n'est pas aux enseignants de le dire. C'est à la société dans son ensemble de le dire. Et en revenant à ce qu'on pense utile pour nos enfants, comprendre les centrales nucléaires, comprendre les inégalités sociales, comprendre, maîtriser le patrimoine classique, etc. C'est à la société. Et après, il faut mobiliser et s'appuyer sur la démocratie scolaire. C'est ce problème-là qu'on voulait poser, pour arriver à s'attaquer aux inégalités d'éducation. Et moi, c'est là que je vois l'intérêt. Et ce n'est pas cette démarche-là qu'on a frayée depuis 20 ans. La démarche qu'on a frayée, c'est de mettre en difficulté les organisations représentatives des enseignants pour les contourner et imposer un mode de régulation par en haut qui impose une conception qui va à rebours complet de l'identité professionnelle des enseignants. Donc, il y a un véritable enjeu pour arriver à s'affronter à ces difficultés-là, à mobiliser les professionnels et à mobiliser ce qu'ils savent faire. Il y a un certain nombre de choses qui marchent dans les classes et d'autres qui ne marchent pas. Eh bien, mobilisons les chercheurs et les enseignants pour aller regarder ce qui marche. Et puis, faisons des arbitrages. Il y a un certain nombre de choses. Autant il faut donner accès à l'abstraction, autant, sinon c'est pas de l'accès au savoir, c'est pas de la démocratisation. Si on fait que des trucs élémentaires, c'est le rabâchage de l'école primaire de la Troisième République. Donc, il faut se confronter à l'abstraction dès le collège. Mais pas surtout. Et pas sur des choses qui ne sont pas forcément très utiles, ni pour être citoyen, ni pour poursuivre ses études. Peut-être qu'il y a certaines formes de manière de répertorier les registres de langage, par exemple. Bon, voilà, c'est mon avis personnel, mais il faut qu'il y ait une discussion collective là-dessus. Mais moi, je dirais ça, par exemple, que dans certains aspects du programme de français en quatrième, il n'y a peut-être pas que des choses indispensables. Peut-être qu'il y a une tendance naturelle à l'institution scolaire à produire, à générer du formalisme scolaire. Cela pourrait être critiqué. Et à l'inverse, il y a une tendance très très forte du système scolaire à zapper, à faire du zapping. On dit que c'est les enfants, les profs disent que c'est les enfants qui zappent. Mais c'est l'activité scolaire elle-même qui zappe le plus souvent. On n'a pas découvert une notion que déjà il faut l'appliquer et passer à une autre notion. Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend dans la répétition, dans la confrontation répétitive à des choses qui permettent de réinvestir la connaissance. Bon. Bref, donc ça, je suis quand même allé sur votre terrasse, je ne voulais pas y aller. Mais c'est à se poser ces questions-là, mais on ne les résoudra pas sans mobiliser la communauté enseignante. Ça me paraît strictement impossible. Donc, et actuellement, on est dans une stratégie de contournement massif et qui est totalement contre-productif pour répondre aux enjeux. Dans cette réflexion, on peut très bien associer les associations d'éducation populaire. Et moi, je me disais que pourquoi pas un prochain thème de nos travaux pourrait être la question de l'émancipation et de l'éducation en lien avec des associations d'éducation populaire. Mais on ne va peut-être pas en débattre ici. Mais voilà.
Je voudrais dire un mot aussi.
Et je voulais juste dire, autopromotion, que dans cet ouvrage-là, justement, on a essayé de réfléchir à ces questions.
Très, très. Donc, pour répondre très rapidement à la question sur les critères administratifs, non, ça vient pas de la LRU. Il y avait déjà une certaine forme d'autonomie, en tout cas dans les décisions sur, par exemple, les équivalences, quand on reprend des études dans le cours de la vie, etc. En revanche, ce que ça a accentué, c'est, par exemple, les disparités sur les frais d'inscription d'une université à l'autre qui était relativement stable et qui pour lesquelles maintenant il y a des disparités très grandes. Par rapport à la question de l'éducation populaire, il y a des tas d'enseignants dans le supérieur, en particulier depuis 2009, et le constat de ce que devient l'université à l'opposé de ce qu'on de nos valeurs. Il y a des tas d'enseignants qui sont tentés par l'éducation populaire et qui, y compris ont créé un certain nombre de structures parallèles d'universités populaires. Je suis en désaccord avec eux. Enfin, je pense que pour l'instant, je trouve ça très très bien de s'intéresser à l'éducation populaire, mais je trouve que pour l'instant, il faudrait mieux essayer, comme ça se fait dans certains endroits, au département de lettres par exemple à Poitiers, d'importer ces pratiques-là à l'université et de continuer à se battre tant qu'on peut le faire à l'intérieur de l'université pour défendre ce type de pédagogie. Quand on ne pourra plus du tout, quand il n'y aura plus que des IDEFI, alors je suis tellement technophobe que j'ai oublié de vous montrer à quoi ressemblait un IDEFI, une pédagogie innovante, donc je vous laisse regarder juste le temps que je finis de répondre à la question, mais plein écran, voilà, ça c'est un projet innovant. Donc voilà, tant qu'on peut, tant que ça, c'est pas passé et généralisé à toutes les formations de la première année d'université jusqu'au doctorat, ben je crois qu'il faut investir tous les espaces où on peut proposer d'autres formes de pédagogie inspirées des mouvements d'éducation populaire et donc des réflexions entre l'enseignant, l'enseigné, etc. Mais ce n'est que mon avis.
Juste un mot, parce que Romuald nous prie de conclure, mais sur l'apprentissage, c'est un avis, encore une fois, qui pourrait être largement discuté, mais je pense que ces 15 dernières années, ou peut-être plus encore, on met les efforts, on met l'argent sur de la gestion en aval, essentiellement, de la récupération. Et il y a beaucoup de gens dont vous faites partie qui, malheureusement, faites un travail extrêmement difficile. Mais je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de travailler dans la durée, en amont, effectivement, dès le plus jeune âge et au niveau notamment de l'école élémentaire, au collège, et pour éviter ce que vous déplorez. Mais c'est vrai que les solutions gestionnaires de récupération type classe relais, atelier relais, puis MGI, puis etc., etc. Tous ces dispositifs de secours, d'abord, ils n'ont absolument pas fait leur preuve en 15 ans d'existence, donc il faut maintenant en prendre acte. Et le gros du travail maintenant, c'est une politique éducative ambitieuse à l'échelon national et pas uniquement des petits dispositifs comme on le fait depuis 15 ans. À mon avis, on ne s'en sortira pas. En tout cas, on a déjà l'expérience et le recul pour montrer qu'il n'y a eu aucun résultat intéressant et significatif pour ces pauvres gamins, effectivement, qui sont, comme vous le dites, en grande difficulté dans l'écrit, etc.
Bien, merci à tout le monde. Alors, je vous informe juste, ou vous rappelle tout simplement que la prochaine séance a lieu dans 16 heures, donc on fait une courte pause. Bon, on peut peut-être dire 16h05 pour le coup, mais on ne peut pas trop décaler sur le programme. Je vous informe aussi que vous trouverez au-dessus donc un stand d'ouvrages qui sont tous en lien avec la thématique du festival, qui a été organisé très gentiment par la librairie La Belle Aventure. Donc je vous invite à y jeter un œil, le cas échéant. Merci à tous et à tout à l'heure.